Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Près des cours d'eau de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de toi, Sion. Mes très chers frères, c'est aujourd'hui la fête de Saint-Luc évangéliste, mais le sermon portera sur les textes du 20e dimanche après la Pentecôte dont nous faisons mémoire. Mes très chers frères, nul ne peut entendre ce que l'Église a à nous enseigner aujourd'hui s'il n'est un vrai chrétien. Dans les textes de la messe d'aujourd'hui, l'Église ne s'adresse pas aux hommes en général pour les appeler à la conversion, elle s'adresse aux chrétiens dans la mesure où ce sont des chrétiens qui se tournent vers Dieu et qui attendent de Dieu tout ce dont ils ont besoin. Ce ne sont pas forcément des saints au sens canonisable du terme, mais ce sont des chrétiens par rapport et par opposition aux mondains. Ce n'est donc pas un appel général, comme l'Église le fait par ailleurs, hein, bien entendu, mais c'est un rappel aux enfants de Dieu que de leur finalité. C'est un rappel aux enfants de Dieu de leur finalité. Le sens de leur vie n'est autre que le sens de leur exil. Nous ne pouvons pas comprendre la vie chrétienne si nous ne comprenons pas que nous vivons assis près des cours d'eau de Babylone, en nous souvenant de Sion, qui est le ciel. Nous sommes en exil, et nous sommes donc dans l'occasion, dans notre vie, et donc l'occasion de gagner le ciel. C'est l'occasion unique de gagner le ciel, car il n'y a qu'une seule vie, ici-bas sur terre, et c'est l'occasion de gagner le ciel. Et c'est aussi le temps de l'épreuve. C'est pour ça que nous avons à voir plusieurs choses aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit. Premièrement, nous verrons en quoi consiste, selon saint Paul, la prudence évangélique. Comment elle se pratique concrètement. Nous verrons aussi quelques erreurs qu'on fait couramment sur elle. Et puis nous nous poserons la question de savoir quelle est la vision que le chrétien doit avoir du monde et comment cela doit se manifester pratiquement, concrètement dans sa vie. Ensuite, en deuxième point, nous verrons ce que nous devons demander à Dieu, l'Église nous l'enseigne, nous devons demander à Dieu le pardon et la paix. Et nous verrons aussi comment cette demande détermine notre vie chrétienne et vient sceller ce que nous aurons vu dans le premier point. Et enfin, nous terminerons dans un troisième point en voyant comment nous devons demander à Dieu, et ce sera l'occasion de voir cinq dispositions qui rendent possible l'exaucement. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Voici ce que dit saint Paul dans l'Épître. Ayez soin, mes frères, de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des hommes sages, rachetant le temps, parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne devenez pas imprudents, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. La prudence évangélique, mes très chers frères, est nécessaire au milieu de tant d'ennemis de la vérité, de tant d'ennemis du salut et de tant d'ennemis de l'Église parmi lesquels nous vivons. Nous sommes dans une. Le chrétien est dans la situation d'un soldat qui évolue, qui avance en terrain hostile, en terrain ennemi, où il sait que tout est fait pour l'abattre. Ce n'est pas pour rien que saint Paul, dans ses épîtres, nous compare la vie chrétienne, entre autres choses, à la vie d'un soldat, ou au combat que les soldats, les guerriers, les militaires mènent. Ils doivent se tenir sur leur garde, ils savent que leurs ennemis ne demandent qu'à les éliminer, et c'est pour cela que saint Paul parle aujourd'hui de circonspection. Le soldat qui n'est pas circonspect alors qu'il vient de passer dans les lignes ennemies est quelqu'un qui est suicidaire, si j'ose dire. Le chrétien qui vit ici-bas sans cette circonspection évangélique est, nous dit saint Paul, un insensé. Un insensé, à strictement parler, ça signifie celui qui n'a pas de sens, qui n'a pas de bon sens, qui n'a pas de sens commun, non pas au sens vulgaire du terme, mais au sens évangélique du terme. C'est-à-dire celui qui, quoique envoyé parmi les loups, comme nous l'avons entendu dans l'évangile de Saint-Luc, pour la fête de Saint-Luc, se comporte comme s'il était disons d'une façon irréfléchie. Mes frères, Ayez soin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des hommes sages. En quoi consiste la sagesse, le fait d'être insensé, la folie? Nous savons en quoi cela consiste. Ça consiste, en tant que chrétien, à ne pas se souvenir de Dieu, à ne pas faire toute chose pour l'amour de Dieu, à se détourner des commandements de la religion pour suivre sa volonté propre, ou plus précisément pour suivre les mouvements de sa chair, ce qui est une véritable folie en réalité. Et sous un certain rapport, même les plus sages des païens sont capables de reconnaître que celui qui se laisse aller totalement, du moins à ses instincts, fait son propre malheur. Si je déteste mon prochain et que je tue mon prochain parce que mon prochain m'énerve, eh bien, on n'a pas besoin d'être dans le monde de Dieu pour être puni. Il suffit que la justice des hommes me retrouve et me punisse et me juge pour me punir. Nous voyons que on ne peut pas, même quand on est un insensé, on ne peut pas absolument faire tout ce que l'on veut. Maintenant, il se trouve que nous devons non pas agir comme des insensés sages selon le monde, mais avec circonspection, comme des hommes sages selon Dieu. En quoi consiste donc cette circonspection? Eh bien, saint Paul nous le dit, à racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Que signifie racheter le temps? Il y a deux sens à cette expression. Le premier sens nous est donné par saint Augustin. Il nous dit que racheter le temps, c'est se priver de ce qui nous fait perdre le temps de notre sanctification en nous attachant au monde. C'est-à-dire qu'il nous dit, racheter le temps, c'est préférer perdre un bien relatif pour acquérir un bien absolu. Et il donne comme exemple, un exemple qui n'est peut-être pas à la portée de tout le monde, mais enfin qui tente peut-être beaucoup de gens, c'est, saint Augustin nous dit que, par exemple, c'est le fait de faire un procès pour gagner de l'argent, et de telle sorte à ce que nous soyons emportés en quelque sorte, que nous devions la proie de la passion, de cette passion de faire un procès pour gagner de l'argent, pour récupérer de l'argent, pour acquérir de l'argent, de telle sorte que nous, pendant le temps de ce procès, nous nous mettions dans un total oubli de Dieu, et que nous ordonnions notre existence à l'obtention d'un bien qui exige de nous la transgression d'un certain nombre de commandements évangéliques. Alors, évidemment, les auteurs nous disent que ça ne veut pas forcément dire qu'on ne doit pas faire de procès quand la charité ou quand la nécessité impérieuse se fait ressentir. Ce n'est pas pour condamner le procès en soi, mais c'est pour donner un exemple. Il y a parfois des choses que nous faisons qui prennent beaucoup de temps, qui nous prennent beaucoup d'énergie, et qui, une fois qu'elles ont en quelque sorte réussi, nous laisse dans des remous qui ne nous portent pas ou qui ne nous portent plus à vivre comme des chrétiens. C'est-à-dire que parfois nous disons, bon, mais pendant un certain temps de notre vie, ou pendant un certain nombre de jours, un certain nombre de mois ou d'années, je vais me livrer à toutes sortes de choses qui vont me détourner de la vie chrétienne. Je me rattraperai par la suite quand j'aurai acquis une situation. Un exemple, par exemple, c'est que, par exemple, je vais faire certaines études, pas toutes les études bien sûr, mais certaines études, de telle sorte que je puisse avoir une bonne place dans le monde, et quand j'aurai une place dans le monde, un bon salaire, je me consacrerai plus particulièrement à la pratique de la religion. Entre-temps, ces études exigent de moi certaines participations à une certaine sociabilité, de telle sorte que si je ne fais pas la fête avec mes compagnons d'études, si je me livre pas à toutes sortes de débauches et autres beuveries et autres, je ne pourrai pas rentrer dans le cercle des gens qui dans la promotion, comme on dit, de telle sorte que je ne ferai pas de relations. Et par la suite, étant dans le métier, eh bien, je serai snobé ou je serai méconnu par des gens qui m'auront considéré comme un original et comme quelqu'un qui ne veut pas rentrer dans le cadre de ce qui se fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas forcément faire des études qui peuvent nous garantir des bonnes situations. Ce n'est pas ça que nous disons. Nous disons simplement qu'il faut choisir lesquelles. Et il faut savoir aussi que si nous faisons ce calcul, c'est-à-dire si nous nous disons que nous allons mettre la religion de côté pendant un certain temps afin de pouvoir y revenir quand nous aurons plus de loisirs ou plus de temps ou une meilleure situation pour que nous pourrions nous y adonner, c'est faire un calcul assez périlleux parce que nous pouvons mourir entre-temps. Et si nous mourons entre-temps, le bon Dieu ne nous tiendra pas compte de cette espèce de bonne volonté vaguement que nous aurons eue de devenir chrétiens par la suite, mais il nous jugera en tant que mauvais chrétiens immédiatement. Vous voyez, racheter le temps, d'après saint Augustin, c'est se priver de ce qui nous fait perdre le temps de la sanctification de maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prévoir l'avenir, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des calculs intelligents, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se donner les moyens de réussir, comme on dit, dans le bon sens du terme. Ça veut dire tout simplement qu'il faut qu'à chaque instant de notre vie, à chaque étape de notre vie, nous soyons, nous ne nous comportions pas comme des insensés, mais avec circonspection, comme des hommes sages. Et ça s'adresse surtout aux jeunes gens qui sont au début de leur vie, qui sont en train de poser les fondements pour la suite. C'est très bien, il faut le faire, il ne faut pas vivre forcément au jour le jour avec sa guitare et son chapeau de paille. Il faut prévoir, c'est une bonne chose, mais il faut qu'à chaque étape de notre vie, à chaque étape de notre existence, nous nous comportions avec circonspection et non comme des insensés. Et la deuxième façon, le deuxième sens de cette expression, racheter le temps, nous le trouvons chez saint Grégoire, pape, qui nous dit que, là ça c'est plus pour, disons, c'est plus général, c'est tout le monde peut, disons, ça s'adresse à tous les chrétiens dans tous les états, et toutes les époques de leur vie. Saint Grégoire nous dit que cela consiste à se priver du licite pour expier un abus passé que nous avons fait de ce licite. La vie chrétienne, voyez-vous, mes très chers frères, est beaucoup plus que l'usage rationnel, si tant est que ce mot ait vraiment un sens, surtout pour l'homme moderne, la vie chrétienne est beaucoup plus que l'usage rationnel du créé. L'usage que le chrétien fait de la création est un usage qui est normé par la pénitence. Nous devons, nous dit saint Grégoire, échanger les biens licites pour les biens éternels. C'est-à-dire que si nous avions tendance à être, pour prendre des exemples faciles, nous avions tendance à être intempérants dans le manger et le boire, nous ne devons pas simplement manger et boire d'une façon tempérante, mais nous devons manger et boire en nous privant de certaines choses licites, de telle sorte que nous vous expions, autant que faire se peut, les excès que nous avons faits autrefois. Vous voyez, souvent, lorsque nous avons eu une vie de péché, une vie d'excès dans toutes sortes de manières, il nous semble que quand nous venons à la pratique de la vie chrétienne, des commandements évangéliques, il nous semble que nous devons maintenant nous comporter selon une norme rationnelle, ce qui n'est pas faux, bien entendu, mais que cela s'applique à tout le monde et spécialement à nous. Nous devons nous comporter d'une façon proportionnelle à la façon dont nous sommes comportés autrefois. Nous étions intempérants en parole, nous ne devons pas aujourd'hui simplement parler à bon escient, nous devons aussi mortifier la parole. Vous voyez, nous avions une imagination complètement débordante, délirante, autrefois. Il ne s'agit pas maintenant simplement de se concentrer sur des choses licites, il faut mortifier cette imagination. Nous avions une vie qui n'était pas bonne à divers points de vue. Nous devons maintenant que nous avons une vie bonne, faire attention de pratiquer véritablement la mortification. C'est une grande naïveté, mes très chers frères, de s'imaginer que par le seul fait d'être chrétien, nous rachetons le temps. C'est une grande naïveté et il y a quelque peu d'orgueil qui rentre dedans. Et nous disons, nous n'avons plus notre vie passée, nous ne faisons plus les péchés énormes que nous pouvions faire autrefois, donc maintenant il se trouve que tout ce que je le fais pour la gloire de Dieu. Alors, j'espère que c'est vrai, et c'est ce que nous devons nous dire, mais nous devons aussi nous donner le moyen de le mettre en pratique. Comment vivre à la gloire de Dieu, contrairement à ce que nous avons fait autrefois? Eh bien, c'est en mettant un couteau sous notre gorge, pour parler comme notre Seigneur, dans une parabole, et en nous réfrénant même de ce qui est licite. Ça ne veut pas dire que nous devons tout massacrer et faire n'importe quoi. Il faut prendre conseil, bien sûr, d'où la nécessité d'avoir des directeurs spirituels, des gens de confiance auxquels nous pouvons nous adresser pour prendre conseil. Mais nous devons comprendre que la vie chrétienne n'est pas simplement le retour à une sorte d'état de niveau zéro alors que nous étions autrefois dans les étages infernaux. Il se trouve que c'est une vie qui doit tenir compte aussi, dont notre pratique de la vie chrétienne, notre usage des créatures, doit tenir compte des abus que nous avons commis autrefois, de telle sorte que nous témoignons à notre Dieu que nous sommes vraiment pénitents et que nous sommes vraiment contrits de ce que nous avons fait autrefois contre ses commandements. Sinon, eh bien, si nous nous entêtons à vouloir vivre, disons, une vie pleinement, si, du point de vue mondain, tout en étant chrétien, eh bien, nous allons être insensiblement entraînés sur la pente de la concupiscence, de la sensualité, de telle sorte que insensiblement, nous allons devenir des mondains, redevenir des mondains, certes différemment, j'espère, mais quand même un mondain d'un type A ou d'un type B ou d'un type C, d'une certaine manière, c'est toujours des mondains, et ils déplaisent à Dieu. C'est pour cela qu'il y a certaines erreurs que l'on trouve, spécialement chez les jeunes catholiques, avec des guillemets, cela consiste à, par exemple, à se, disons, contre les attitudes misérabilistes, hygiénistes, gauchistes, que sais-je, ou décroissantes, à avoir une attitude de bon vivant, de telle sorte que l'on ait l'impression que le chrétien est quelqu'un qui est en lien avec la nature, et donc du coup, la nature, c'est les bons repas, c'est les bonnes boissons, c'est... Je ne dis pas que le chrétien ne doit pas vivre d'une façon qui est, disons, qui est normale, même d'un point de vue, du point de vue général. Je dis simplement que le chrétien doit faire attention de, sous prétexte d'être en réaction contre des abus que certains types de mondains font, eh bien, on doit faire attention de ne pas tomber dans des excès qui ne sont jamais que des excès, des excès inverses, c'est-à-dire qui sont, c'est un peu comme un miroir. Vous avez d'un côté une image dans un sens, et vous avez de côté l'image qui est dans l'autre sens, mais c'est la même image. Vous voyez, si nous nous calquons, en quelque sorte, si nous calquons notre comportement sur le mauvais comportement qu'ont d'autres mondains, nous allons simplement être des mondains différemment. Donc faisons très attention de ne pas céder à ces sirènes finalement de la sensualité qui consistent à dire que le chrétien, eh bien le catholique est une personne qui sait faire bombance, qui sait apprécier le bon vin, qui sait apprécier les bonnes choses de la vie et qui est une sorte, comme le disons assez souvent, une sorte de sybarite pieux dans le sens où il jouit de toutes choses sous le regard de Dieu. Vous êtes trompé de religion, vous croyez que le catholicisme c'est l'islam. Ça c'est la définition de l'islam et c'est tout à fait cohérent. Et d'une certaine manière, c'est la façon dont les musulmans sont heureux ici-bas sur terre. Maintenant, pour le chrétien, c'est quand même la logique est quand même assez différente. Le chrétien n'est pas ici-bas chez lui. Il n'est même pas directement. Il est chez Dieu, mais il est chez Dieu duquel on a la chute de nos premiers pères a défiguré la création. Donc, il est chez Dieu, certes. Il utilise les créatures que Dieu a créées, certes. Mais il y a un voile, il y a une ombre sur toutes ces choses, parce que la création a été soumise à la vanité, malgré elle, bien entendu, mais la création a été soumise à la vanité de telle sorte que toutes les choses créées dont l'usage est licite comportent en elles-mêmes, tout de même et encore, un piège. Et c'est ce piège dont le chrétien doit se prémunir, dont le chrétien doit se méfier et se défier. Faisons très attention, mes très chers frères, c'est pour cela que saint Paul dit « Ne vous enivrez pas de vin, car c'est une cause de vie dissolue. » S'enivrer de vin, c'est une chose pour un tout, bien entendu, il pourrait plus dire d'autres choses, mais ne vous enivrez pas de vin, c'est-à-dire, d'une façon générale, saint Paul nous dit que toute activité qui est incompatible avec le souvenir de Dieu est à rejeter comme mondaine. C'est une activité qui nous plonge en nous-mêmes, ou c'est une activité qui nous fascine. Alors, une activité qui nous plonge en nous-mêmes, c'est à peu près tout ce que l'on peut faire par passion. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être intéressé par le métier qu'on fait ou qu'on veut faire, parce que sinon, ça serait trop difficile. Mais ça veut dire qu'il faut faire attention de ne pas faire les choses d'une façon passionnée, c'est-à-dire d'une façon qui soit tellement liée à notre amour propre que tout échec ou toute contradiction, ou toute contrariété, est ressentie par nous comme une sorte de crime, de lèse-majesté par rapport à nous-mêmes. Faisons très attention. Il se trouve que assez souvent, Dieu nous permet de faire les choses qui nous plaisent, pas forcément toujours, mais des fois, nous pouvons choisir notre métier, nous pouvons faire quelque chose qui nous plaît. Soumettons ce plaisir que nous y trouvons à l'amour de Dieu, à la charité, de telle sorte que nous ne nous laissions pas emporter, même par le licite. Faisons attention aussi de ne pas nous laisser emporter par des actions, aller à des actions qui nous fascinent. Et quelles sont ces actions qui nous fascinent, ces choses qui nous fascinent, eh bien, et qui sont décrites par l'enivrement du vin? Eh bien, c'est par exemple les films, autrefois on disait les romans, mais enfin ça existe encore toujours, les jeux vidéo, ces choses qui, à strictement parler, nous fascinent, c'est-à-dire relèvent de la concupiscence des yeux, et qui, en quelque sorte, en nous transportant dans un autre monde, le film, le roman, le jeu vidéo, nous font en quelque sorte quitter ce monde dans lequel seuls nous pouvons nous sanctifier. Imaginez quelqu'un qui joue à un jeu vidéo, alors pas forcément les jeux violents comme on dit, etc., mais il y a des jeux calmes, si l'on peut dire, qui sont pas meilleurs. Vous savez, ces jeux que connaissent la jeunesse, qui a un grand succès dans la jeunesse actuellement, c'est un jeu où on construit un monde. Alors on construit des choses, alors même on construit des choses dans un monde médiéval, avec toutes sortes de choses, enfin qui n'ont strictement rien à voir avec le Moyen-Âge en réalité, mais enfin, disons qu'ils en ont l'apparence, on construit des choses, on construit des châteaux, on creuse, on plante, bon, toutes choses qui semble tout à fait licite d'une certaine manière. Oui, mais le problème, c'est que tous les efforts que celui qui joue déploie pour arriver à quelque chose sont absolument inutiles pour le salut, inutiles pour la sanctification. Et même s'il fait la, même si c'est, je ne sais pas si ça existe, même si c'était un jeu avec des croisades et qu'il endossait le rôle d'un croisé et qu'il combattait les Mahométans pour la reconquête de la Terre Sainte, que sais-je, eh bien tout ceci serait du vent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans la vie que tel que Dieu l'a normé. C'est un jeu. Il est dans la fascination et c'est quelque chose à rejeter comme mondain, comme une mondanité, parce que le souvenir de Dieu en est absent et il n'est pas compatible, cette activité n'est pas compatible avec le souvenir de Dieu et que nul ne vienne dire que parce qu'il y a des croix, parce qu'il y a des sortes de choses, qu'on se souvient de Dieu. Le souvenir de Dieu, c'est le fait de faire toute chose à la lumière de Dieu et donc de cela consiste essentiellement et uniquement dans l'accomplissement du devoir d'État. Ces choses qui nous fascinent ne relèvent pas du devoir d'État. Il y a encore d'autres choses qui sont à rejeter comme mondaines. Ce sont des choses, un certain nombre de choses, nous avons déjà parlé précédemment, mais qui relèvent du loisir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se détendre, ça ne veut pas dire forcément qu'il ne faut pas se livrer à des activités de loisirs, parce que on a besoin des fois de se reposer, mais ça veut dire, en fait, le loisir qui est à bannir, c'est quand on se dit, avec le monde, c'est une expression mondaine, je vais maintenant prendre un peu de temps pour moi. On peut se détendre en faisant des choses, en compagnie ou tout seul, mais quand on se dit « bon, maintenant, je vais prendre du temps pour moi », on sait que l'on est en train de se comporter en mondain. Parce que le simple fait de le dire « je vais prendre du temps pour moi », eh bien, est en quelque sorte une sorte de postulat, de pétition de principe, où nous nous disons, où nous faisons un acte de volonté, où nous chassons Dieu, où nous excluons Dieu de ce que nous allons faire, nous allons en quelque sorte prendre des vacances. Nous allons prendre des vacances, alors vous allez dire, ce sont, alors pas au sens propre du terme, mais ça veut dire que nous allons prendre des vacances de la vie chrétienne, de la vie de Dieu, de telle sorte que même si ce que nous faisons est licite, nous n'allons pas forcément faire des choses en tant que chrétiens qui sont illicites, mais le simple fait de les faire sans penser à Dieu est quelque chose qui les rend mondaines. Alors vous allez dire, et si je faisais la même chose en pensant à Dieu? Eh bien, je dirais, si c'était possible, ça ne serait pas mondain. Évidemment, vous allez dire, mais la différence entre une activité mondaine et une activité qui n'est pas mondaine, ou qui est compatible avec la vie spirituelle, est très ténue. C'est pour cela que Saint Paul nous dit qu'il faut que nous nous conduisions avec circonspection, et non comme des insensés, mais comme des hommes sages. Nous devons savoir discriminer entre ce qui est mondain et ce qui n'est pas mondain. Et ce n'est pas nous qui donnons des brevets de non-mondanité à ce que nous voulons faire. Il faut consulter les autorités qui peuvent nous renseigner, et il faut aussi nous tenir à ces avis, de telle sorte que nous sachions aussi par conséquent que la chose non-mondaine, l'occupation non-mondaine que nous allons faire, étant compatible avec la vie chrétienne, elle doit être faite, même si c'est une activité de loisir, elle doit être faite avec le souvenir de Dieu et avec la charité. Tout ceci, nous dit Saint Paul, tout ceci parce que les jours sont mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire, les jours sont mauvais? Les auteurs, dans les commentateurs, nous donnent plusieurs raisons ou plusieurs sens à cette expression « les jours sont mauvais ». Ils nous parlent de la faiblesse humaine et de son incapacité à faire le bien ou autant de bien qu'elle le voudrait. Ils nous parlent aussi des scandales que nous avons, que nous pouvons remarquer et qui peuvent émailler notre vie et qui peuvent nous faire en quelque sorte vaciller dans notre foi. Ils nous parlent des maladies qui parfois peuvent nous abattre. Ils nous parlent aussi des mauvais exemples qui peuvent nous entraîner. Les jours sont mauvais. Ce n'est pas simplement que les francs-maçons règnent et qu'aujourd'hui c'est de n'importe quoi. Les jours sont mauvais, mais c'était vrai du temps de l'apôtre, c'était vrai au Moyen-Âge, c'était vrai au XVIIe siècle, c'était vrai, c'est vrai tout le temps. Alors, certains jours, certaines époques sont plus mauvaises que d'autres, mais dans le fond, qu'est-ce qui est mauvais? C'est mon cœur. C'est mon cœur qui répond, qui a toujours une tendance à répondre favorablement et positivement à toutes les sollicitations qui se proposent à lui pour l'entraîner loin de Dieu. Les jours sont mauvais et ils sont d'autant plus mauvais qu'ils ont un écho dans mon cœur qui, à certains égards, et bien des égards, reste encore marqué par le péché originel, par la blessure du péché originel que je dois combattre et qui s'appelle le vieil homme ou la chair. Parce que les jours sont mauvais. Le temps de cette vie est plein de tentations et d'occasions de péché. Et nous ne devons jamais nous ne devons jamais l'oublier, mes très chers frères. Et ce n'est pas parce que nous sommes entre chrétiens, ce n'est pas parce qu'il nous semble que nous sommes pleinement dans une activité qui est typique, sinon des maximes de l'Évangile, du moins du christianisme militant, que nous ne sommes pas, ce n'est pas parce que nous sommes là-dedans, que nous ne sommes pas environnés de dangers, de tentations et d'occasions de péché. Toute action licite peut être une occasion de péché dans la mesure où nous l'accomplissons sans la charité ou en nous détournant de la charité ou en captant la charité pour la transformer en l'amour propre. Il faut faire très attention. Toute la vie de l'homme sur terre, dit le saint homme Job, n'est qu'une vaste tentation. La sagesse consiste donc, mes très chers frères, à repérer ces tentations, à les fuir ou à les vaincre, selon leur nature, à les fuir ou à les vaincre, les repérer, les fuir et les vaincre. Pour cela, maître Chaffin, il faut être fixé en Dieu, et c'est pour cela que saint Paul dit « Mais comprenez quelle est la volonté de Dieu ». Qu'est-ce que ça signifie être fixé en Dieu? Ça ne veut pas forcément être dans la béatitude éternelle, comme sont les bienheureux qui sont au ciel. Nous sommes sur terre, nous parlons à des chrétiens en état de voie. Il faut être fixé en Dieu, ça signifie plusieurs choses. Ça signifie, entre autres, et d'une façon fondamentale, avoir une familiarité avec la pensée de Dieu. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas habitués à penser comme Dieu pense, nous ne pouvons pas voir le monde tel que Dieu le voit. Alors vous allez dire, c'est un peu abstrait, Dieu en lui-même, en soi. Non, nous ne parlons pas de Dieu en lui-même, en soi. Nous parlons de Dieu, notre Père, tel qu'il se révèle à nous. C'est pour cela que saint Paul nous dira, et c'est la deuxième partie de cette épître, il nous dira, remplissez-vous du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit, en vous entretenant de psaumes, d'hymnes, de cantiques spirituels, chantant et psalmodiant du fond du cœur au Seigneur, en rendant grâce en tout temps et pour toute chose à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres, dans la crainte du Christ. Comment arriver à cette fixation en Dieu, autant qu'on le peut ici-bas, par la familiarité avec les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels. Nous ne pouvons pas être chrétiens si nous ne fréquentons pas l'Écriture sainte, et spécialement les psaumes. Alors vous allez dire, mais je ne suis pas clair, je ne suis pas un clerc, je ne suis pas tenu à dire l'office. Évidemment, chacun ses devoirs. La seule chose, rien ne nous empêche, mes très chers frères, les laïcs, de vous plonger régulièrement dans la parole de Dieu et d'en faire votre nourriture. C'est d'ailleurs là le sens premier de la parole de notre Seigneur dans notre Père qui nous fait dire « Donnez-nous notre pain quotidien ». Le pain quotidien n'est pas l'Eucharistie, selon les commentateurs, c'est la parole de Dieu. L'Eucharistie, évidemment, vient dans un autre sens, dans un autre temps, dans un deuxième sens. Parce que, tout simplement, parce qu'il n'est pas, dans l'Église primitive, il n'était pas prévu que les chrétiens, forcément, communiassent tous les jours. Il se trouve simplement que c'est la parole de Dieu, c'est bien sûr les sacrements, mais c'est la parole de Dieu qui ne doit pas être négligée. Il ne faut pas s'imaginer être un bon chrétien parce qu'on lit les livres d'un tel qui dénonce telle ou telle chose. Je ne dis pas que les livres de ce genre-là ne sont pas n'ont pas une certaine utilité pour certaines personnes à un certain moment dans un bon sens, mais il se trouve que si nous nourrissons de cela, n'importe qui peut s'en nourrir aussi et qui n'a pas besoin d'être chrétien, puisque ce sont des livres qui peuvent être lus par n'importe qui est critique vis-à-vis du monde dans lequel il vit. En revanche, celui qui se nourrit quotidiennement de la parole de Dieu et qui le fait sur une base régulière, très régulière, aussi régulièrement qu'il se nourrit, qu'il nourrit son corps, eh bien, celui-là, véritablement, acquiert une familiarité avec Dieu qui le rend capable, eh bien, de penser les choses comme Dieu les pense, en fonction des catégories de la révélation, de telle sorte qu'il puisse être un homme sage et non pas se conduire en insensé, être circonspect et non pas insensé. Alors comment devons-nous demander, que devons-nous demander à Dieu? L'Église a tout prévu et elle nous a donné une raison pour aujourd'hui qui est la suivante. Dispensez largement, Seigneur, à vos fidèles le pardon et la paix pour qu'ils soient purifiés de tout péché et puissent vous servir dans la sécurité. Nous avons besoin de demander deux choses à Dieu, le pardon et la paix. Inugen siam et pacem. Accordez largement, largirez, accordez, dispensez largement, Seigneur, à vos fidèles, le pardon et la paix. Sans eux, sans ce pardon et cette paix de Dieu, notre existence n'est qu'un tourbillon d'inquiétude. L'inquiétude, ce n'est pas simplement le fait d'avoir des soucis, mais c'est le fait de ne pas être en repos. Et on ne peut être en repos en toute chose que lorsque l'on est solidement amarré à Dieu, à la vérité, par cette ancre qu'est la foi, de telle sorte que, et de telle sorte une foi vive, bien entendu, et une foi qui est entretenue, pas simplement une foi qui est théorique, une foi morte, mais une foi qui est vive et une foi qui est entretenue. La paix et le pardon et la paix sont deux choses dont nous avons absolument besoin, sans lesquelles notre vie n'est qu'un tourbillon d'inquiétude. Nous sommes semblables, dira Saint Jacques, aux flots mouvants de la mer qui ne sont jamais en repos. Dispensez avec abondance, disons-nous à Dieu. Et dispensez avec abondance, fidelibus tuis, à vos fidèles. C'est pour cela que les textes de la messe d'aujourd'hui s'adressent aux fidèles. Elles ne s'adressent pas aux hommes qui vont devenir fidèles, qui sont encore dans le tourbillon du monde. Elles s'adressent aux fidèles pour leur rappeler avec quelle circonspection ils doivent se conduire dans cette vallée de larmes, dans ce monde rempli de pièges et de tentations. À vos fidèles. « Je ne prie pas pour le monde, dit notre Seigneur, je prie pour ceux que vous m'avez donnés. » C'est une chose très particulière que de savoir que Dieu nous aime, nous les chrétiens, d'une façon spéciale, parce que nous sommes ses enfants, parce que nous sommes ses nouvelles créatures dans le Christ. Dans la mesure où nous sommes baptisés, nous sommes des nouvelles créatures dans le Christ, et Dieu nous aime d'une façon particulière, et c'est à ces enfants-là, à ces enfants, et qu'il, dans le Christ, qu'il dit « Conduisez-vous avec circonspection » et qu'il nous fait de lui demander « Donnez-nous largement le pardon et la paix ». Le pardon et la paix sont pour ceux qui le demandent avec ardeur et constance. Tout d'abord, nous devons demander le pardon. Si nous demandons à Dieu qu'il nous accorde son pardon, le moins que l'on puisse faire, c'est de détester les choses qui nous ont valu le châtiment de Dieu, et comme Dieu est miséricordieux et qu'il nous pardonne, qui nous valent en quelque sorte, ou qui font que nous demandons le pardon. Si il se trouve que nous demandons le pardon, il faut avoir, seule la contrition peut l'obtenir. Il faut donc détester nos péchés, il faut les regretter, il faut les pleurer. Il ne faut pas simplement se dire, bon, ben, je les ai confessés, maintenant ils sont derrière moi, maintenant passons à autre chose. Il ne faut pas les ressasser inutilement, bien entendu, il ne faut pas se complaire en eux, bien entendu, loin de là, mais il faut les détester. Nous n'avons pas besoin forcément de les rappeler à notre mémoire constamment, surtout s'ils sont des péchés qui sont graves et dont le souvenir est mauvais, mais nous devons nous souvenir que nous avons été de grands pécheurs, et c'est saint Paul qui nous montre le chemin, puisqu'il le dit de lui-même, il faut se souvenir que nous avons été de grands pécheurs et que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Pour obtenir la miséricorde de Dieu, il faut au moins ne pas aimer ce que nous avons fait autrefois. Il ne faut pas nous aimer tel que nous étions autrefois, mais tel que nous sommes actuellement. Et cet amour de nous-mêmes, c'était un saint amour de nous-mêmes, demande la préservation dans la justice, justement. Il ne faut pas se vanter de ses péchés, bien entendu. Il ne faut pas en tirer une secrète vanité. Bien souvent, ou parfois, quand on a commis des péchés qui sont graves, mais sous un certain rapport qui sont quand même un peu héroïques par un certain côté, par exemple, on a, je ne sais pas, moi, prenons un exemple qui n'existe pas, j'imagine, mais on a, par exemple, cassé la figure à quelqu'un qui nous a mal parlé. Bon, alors en tant que chrétien, c'est un acte caractérisé d'amour-propre, et qui est tout à fait mauvais, mais sous un certain rapport, du point de vue mondain, si on a un peu des anciennes catégories, on peut dire que nous avons le sens de l'honneur, nous n'avons pas laissé notre honneur bafoué, être bafoué, etc. Donc, nous allons, sous un certain rapport, demander pardon à Dieu pour l'acte d'orgueil que nous avons fait, au temps où nous étions enfants du diable, mais en même temps, sous un certain rapport, nous aimons bien rappeler ce péché que nous avons fait pour montrer que, eh bien, nous ne nous laissons pas marcher sur les pieds. Vous voyez, il ne faut pas, on ne peut pas, il ne faut pas se laisser aller à ce genre de vanité secrète par rapport à nos péchés, sinon nous ne pourrons pas demander efficacement le pardon de Dieu qui ne nous sera pas donné. Dieu nous donne son pardon au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer. La seule chose, il le donne généreusement, mais il le donne à ceux qui détestent vraiment ce qu'ils ont fait. Sinon, comme nous nous moquons de Dieu, le moins que Dieu puisse faire, c'est de rester sourd à notre demande. Le pire qu'il puisse faire, c'est de nous châtier, bien entendu, ou de même de nous condamner, que Dieu nous garde. Mais il se trouve donc que si nous devons demander à Dieu un abondant pardon, nous devons aussi, autant que cela dépend de nous, avec l'aide de Dieu, détester abondamment ce que nous avons fait autrefois et qui fait qu'aujourd'hui nous sommes obligés de demander le pardon à Dieu. Ensuite, la deuxième chose que nous devons demander, selon l'Église d'aujourd'hui, il se trouve que, de l'horizon d'aujourd'hui, il se trouve que nous devons demander la paix. La paix, c'est donc, comme dit saint Augustin, la tranquillité de l'ordre. C'est-à-dire, nous devons savoir ce que nous demandons lorsque nous demandons la paix. Bon, lorsque nous demandons le pardon, nous avons compris ce que cela signifie. Mais demander la paix, ce n'est pas la paix pour avoir la paix, si on peut dire, et se livrer à la concupiscence maîtrisée, en quelque sorte, telle qu'un chrétien peut s'y laisser aller sans se donner l'impression d'avoir apostasié, d'être devenu un païen. Nous ne demandons pas à Dieu la paix pour faire ce que nous voulons. Nous demandons à Dieu la paix, c'est-à-dire la tranquillité de l'ordre. Donc, très concrètement, demander à Dieu une abondance de paix, c'est demander à Dieu la constance dans la pratique du bien. Donc, nous devons, en demandant à Dieu la paix, éliminer de notre vie toute source ou tout facteur de désordre. On ne peut pas éliminer toute source ou tout facteur de désordre d'une façon absolue, parce que premièrement, la racine de tout le désordre, c'est la concupiscence, et elle est malheureusement coextensive avec notre existence. Mais, disons, nous pouvons quand même faire le ménage. Il y a beaucoup de choses qui excitent notre concupiscence dans les limites, disons, de l'acceptable pour un chrétien, qui pourraient être résorbées. Il y a bien des choses auxquelles nous nous laissons aller en nous imaginant que, au moins, nous le faisons en chrétien, nous ne le faisons pas en païen. Nous pouvons cancaner, nous pouvons parler de notre prochain, nous pouvons injurier les gens comme ça, mais disons toujours dans le cadre du christianisme, c'est-à-dire sans avoir vraiment l'impression de transgresser les lois d'une certaine charité générale que nous devons aux créatures de Dieu. Nous pouvons faire mieux, mes très chers frères, nous pouvons faire mieux. Certes, nous ne mentons pas comme mentent les païens, mais nous nous comportons mal. Et un chrétien qui se comporte mal, proportionnellement, comme il est beaucoup plus responsable, est à peu près l'équivalent d'un chrétien qui se comporte, d'un païen qui se comporte très mal. Après tout, le païen, s'il se comporte mal, le malheureux ne peut pas vraiment faire autrement. Tandis que le chrétien qui se comporte pas très bien pourrait faire autrement. Donc, ce qu'il fait est bien pire que ce que fait le païen, puisqu'il a des grâces que le païen n'a pas. N'a pas encore, mais n'a pas. Donc, faisons très attention. C'est un petit peu comme pour un prince qui se comparerait avec un misérable. Il dit, je me livre à toutes sortes de turpitudes, mais au moins, je ne me laisse pas aller à toutes sortes de choses qui ne se trouvent que chez les misérables et les va-nu-pieds. Le problème, c'est que les misérables et vanipiés trouvent leur plaisir dans des choses qui sont abjectes, et si le prince en fait simplement la moitié, il se dégrade encore beaucoup plus qu'eux, parce que eux, d'une certaine manière, ils sont dans la boue et ils ne peuvent pas en sortir, tandis que le prince est censé avoir un meilleur comportement qu'eux. Oui. Le chrétien est un prince, véritablement, puisqu'il est un enfant de Dieu, et il ne peut pas se gargariser du fait qu'il ne fait plus ce qu'il faisait quand il était enfant du diable, mais qu'il fait des choses bien moindres. Il ne faut plus les faire, ces choses-là. Chacun fera les applications concrètes dans sa vie. Donc, si nous demandons à Dieu la paix, c'est que nous lui demandons la constance dans la pratique du bien. Il nous faut éliminer de notre vie toute source ou tout facteur de désordre, et il ne faut pas nous comporter en insensé. En quoi consiste le fait de se comporter en insensé ? Cela consiste à suivre en toute chose sa volonté propre, sa fantaisie, son avantage mondain. Nous en avons déjà parlé. Nous demandons à Dieu donc le pardon pour qu'il nous purifie de nos péchés, et nous lui demandons la paix afin que nous puissions, dit l'oraison, c'est la suite de l'oraison, afin que nous puissions le servir dans la sécurité, afin qu'il soit purifié de tout péché et qu'il puisse vous servir dans la sécurité. Être purifié de tout péché, c'est être purifié non seulement du péché, non seulement de la culpabilité du péché, mais aussi de l'amour, même décanté du péché, nous l'avons dit. Et avoir la paix, c'est pouvoir servir Dieu en toute sécurité. Servir Dieu, c'est être véritablement esclave de Dieu, serviteur de Dieu, c'est-à-dire vivre dans le cadre d'une vie entièrement normée par les maximes de l'Évangile. Voilà en quoi consiste ce que nous devons demander à Dieu. Toute autre demande est en vaine et irrecevable de la part de Dieu. Alors justement, notre troisième point consistera à savoir comment nous devons demander à Dieu ces choses. Comment demander à Dieu ? Eh bien, nous devons, un peu épars dans les textes de la messe d'aujourd'hui, se trouvent les caractéristiques de la façon dont nous devons demander à Dieu la paix, le pardon et la paix. Comme c'est dit dans le graduel, les yeux de tous se fixent sur vous, Seigneur, avec espoir, et vous leur donnez leur nourriture au temps voulu. Dans le graduel, donc, il nous est dit que nous devons fixer Dieu. En quoi consiste le fait de fixer Dieu ? Cela consiste à faire son devoir en ne nous détournant jamais de sa fidélité, en ne perdant jamais de vue sa finalité. Alors, ça ne veut pas dire que nous avons toujours, d'une façon très claire, la finalité surnaturelle de tous les aspects de notre devoir à l'esprit, parce que nous ne sommes que des pauvres créatures, qui plus est des créatures déchues, incapables d'une très grande concentration, d'une très grande pénétration en toute chose. Néanmoins, le simple fait de ne jamais faire des choses qui sont réputées mondaines nous permet de pouvoir au moins faire toute chose pour l'amour de Dieu, au moins par défaut. Et de temps en temps, il faut renouveler ce désir de faire toute chose pour l'amour de Dieu. C'est pour cela que la plupart du temps, dans les prières du matin, nous avons une prière qui détermine notre intention, de telle sorte que nous disons à Dieu que tout ce que nous allons faire, sachant que nous allons faire au moins théoriquement que des choses qui sont licites, tout ce que nous allons le faire pour l'amour de lui, de telle sorte que si, entraînés, disons, par le mouvement de notre devoir, nous n'avons pas forcément à chaque instant la présence d'esprit pour tout offrir à Dieu, nous l'avons offert en bloc au début de la journée. Et donc c'est déjà suffisant, c'est déjà pas mal. Il voudrait mieux évidemment être constamment conscient, comme le sont les saints, comme était la Sainte Vierge, mais enfin au moins d'une façon implicite. Vous voyez, avoir les yeux fixés sur Dieu, c'est ce que nous dit le graduel. Les yeux de tous se fixent sur vous, Seigneur, avec espoir. Tout ce que nous faisons, puisque ce n'est que licite et ce n'est pas mondain, excite notre espoir de la vie éternelle. Nous savons que ce que nous faisons, en réalité, n'a pas une très grande importance, puisque nous pourrions faire autre chose si Dieu l'avait décidé autrement. Mais ce que nous faisons, dans la mesure où Dieu nous a demandé, nous a ordonné de le faire, en nous mettant dans tel état, eh bien, dans nous plaçant dans tel état de vie, eh bien, sert à notre sanctification, et c'est pour cela que nous devons fixer Dieu. Donc, comment demander à Dieu ? En fixant nos yeux sur Dieu, par la charité, qui est incompatible avec des occupations qui nuisent au prochain. Ensuite, comment demander à Dieu ? Donc, en fixant notre volonté et les yeux de notre cœur vers Dieu. Comment demander à Dieu le pardon et la paix ? Dans le verset alléluiatique, cela nous est expliqué aussi. Mon cœur est tout prêt, Seigneur, mon cœur est tout prêt à chanter vos louanges, vous qui êtes ma gloire. Il faut avoir une disposition constante à la gratitude. C'est-à-dire que, quelles que soient les choses qui nous arrivent, quelle que soit la chose que nous faisons ou que nous subissons, notre cœur doit être prêt à chanter les louanges de Dieu. Alors, quand nous sommes dans la joie et que des choses bonnes nous arrivent, nous avons, j'espère, une tendance à élever notre cœur vers Dieu et à éclater en louange, bien entendu. Mais nous devons aussi nous souvenir que nous devons être non seulement prêts à rendre à Dieu la gloire qui lui est due lorsque elle coïncide avec notre bonheur, mais aussi à rendre à Dieu les louanges qui lui sont dues lorsque notre bonheur est en quelque sorte masqué par une douleur ou une souffrance. C'est pour cela que lorsque, par exemple, d'une façon concrète, nous nous faisons mal, nous tapons sur un doigt, que sais-je, plutôt que de jurer, évidemment, chose illicite, bien entendu, plutôt aussi que de se répandre en toutes sortes de gémissements, finalement, qui sont ni mauvais ni bons, nous devons développer, et ça c'est un travail constant, mais qui vient assez vite, nous devons développer le réflexe de rendre gloire à Dieu. Je me fais mal, Deo gratias. J'ai coupé une pièce qui devait normalement que j'avais bien calculé, etc. Cette pièce ne correspond pas à ce que je devais. Disons, cette pièce est ratée. Deo gratias, merci mon Dieu, soyez loué mon Dieu. Alors vous allez dire, si nous louons Dieu pour les erreurs que nous pouvons faire, les contretemps, il n'y aura plus de différence avec la louange que nous ferons monter à Dieu pour les choses qui vont dans le bon sens. Vous voyez, une pièce bien taillée, elle coïncide, Deo gratias, bien sûr. Eh bien, je vais vous dire, mes très chers frères, vous vous trompez si vous imaginez que louer Dieu pour les bonnes choses comme pour les mauvaises a tendance à, en quelque sorte, dévaluer la louange de Dieu. En réalité, lorsque nous disons Deo gratias pour quelque chose que nous avons réussi, le danger de capter la louange ou de diminuer la louange de Dieu est plus grand. Deo gratias, mais enfin c'est quand même moi qui l'ai fait. Tandis que si nous ratons quelque chose et que cela nous rappelle, comme ça doit nous rappeler, notre finitude, notre faiblesse, notre incapacité, le péché originel, que sais-je, et que nous rendons grâce à Dieu, alors cette louange sera beaucoup plus, disons, exempte d'amour propre, puisque notre amour propre aura été mortifié. Voyez, donc, un cœur toujours prêt à louer le Seigneur. C'est comme cela que nous devons demander à Dieu, avec un cœur toujours prêt à louer le Seigneur. Ensuite, dans l'intro 8, il est dit, tout ce que vous nous avez fait, Seigneur, vous l'avez fait en toute justice, car nous avons péché contre vous et désobéi à vos commandements. Il nous faut demander à Dieu avec une disposition à adorer les jugements de Dieu. Et c'est cela en quoi consiste le véritable esprit de pénitence, qui ne se tient jamais quitte de ces dettes que nous avons contractées auprès du souverain juge. Vous voyez, lorsque quelque chose de pénible nous arrive, il faut non seulement louer Dieu, mais il faut aussi le remercier de nous traiter avec une grande miséricorde dans l'expiation de nos péchés passés. Il faut savoir reconnaître, dans une contrariété, dans une souffrance, non seulement une occasion un peu paradoxale pour nous, pour la chair en tout cas, de louer Dieu, mais aussi une occasion d'accepter une expiation. Il faut que nous fassions tout et que nous subissions tout par expiation, pour expiation de nos péchés, et nous ne pouvons demander à Dieu de façon à être exaucé par lui que dans la mesure où nous avons cette disposition, qui va de pair avec la suite de cet introïte. Glorifiez votre nom et traitez-nous selon votre miséricorde infinie. Nous devons non seulement reconnaître en toute contrariété le juste jugement de Dieu pour nos péchés, mais nous devons aussi positivement, pour ne pas nous laisser aller au désespoir ou à la tristesse selon la chair, il nous faut avoir recours à sa miséricorde. Merci mon Dieu de me châtier pour mes péchés, mais Seigneur, soyez miséricordieux envers moi. Ne pensons pas que c'est là mettre une sorte de limite à la justice de Dieu. Au contraire, nous acceptons le châtiment de Dieu, mais nous lui demandons de nous traiter selon son infinie miséricorde, car nous savons qu'il est infiniment miséricordieux, et c'est pour cela que nous savons que tout ce que nous souffrons ici-bas, eh bien, si nous l'acceptons comme venant de la main de Dieu pour l'expiation de nos péchés, cela sera toujours cela de moins à souffrir dans l'au-delà, dans le purgatoire. Donc, vous voyez, il nous faut demander avec ces dispositions de cœur, de telle sorte que nous sachions aussi modérer le ton que nous prenons vis-à-vis de Dieu. Glorifiez votre nom et traitez-nous selon votre infinie miséricorde. Voyez-vous, les commentateurs nous disent que l'officier de Capharnaüm l'officier royal à Capharnaüm, avait un ton, il avait la foi, mais il avait un ton qui était légèrement trop impérieux pour que le Christ puisse lui répondre de la façon qu'il attendait. Vous voyez, notre Seigneur le met à l'épreuve, il lui dit, si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier lui dit, Seigneur, descendez avant que mon fils meure. Et Jésus lui dit, va, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Les commentateurs nous disent que cet officier a parlé d'une façon qui était un peu trop impérieuse à notre Seigneur. Et nous-mêmes, nous devons faire attention de demander à Dieu d'une façon qui soit toujours inféodée en quelque sorte ou proportionnée à la miséricorde que nous requérons de lui et non pas proportionnée aux besoins que nous estimons avoir de lui. C'est-à-dire que nous pouvons demander d'une façon vive et d'une façon impérieuse à Dieu parce que les psaumes nous enseignent à demander fortement à Dieu ce dont nous avons besoin, mais nous devons lui demander humblement, avec la force de l'humilité. Nous ne devons pas dire « Seigneur, vous voyez, j'ai besoin de vous maintenant, alors maintenant c'est le moment de… » Non, nous devons dire « Seigneur, selon votre infinie miséricorde, traitez-moi avec bonté parce que j'ai besoin de vous. » Vous allez dire « Le Seigneur a quand même… » exaucer celui qui, cet officier qui lui a parlé d'une façon un petit peu impérieuse. C'est vrai, mais parce que cet officier a fait preuve d'humilité. Vous voyez, l'autre officier, le centurion, a eu vraiment une attitude qui était digne d'être louée par le Fils de Dieu, puisqu'il lui a dit « Je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit ». L'autre lui disait « Seigneur, venez sous mon toit ». Et quand le Seigneur lui a dit qu'il avait déjà accompli ce miracle demandé, il a cru et il est parti. Vous voyez, il vaut mieux demander humblement à Dieu, de telle sorte que nous ne courions pas le risque, lorsqu'il nous exauce d'une façon qui n'était pas la façon à laquelle nous attendions, que nous ne risquions pas, ne courions pas le risque de tomber dans une sorte d'ingratitude ou de rébellion de notre amour propre. Et la cinquième caractéristique, qui est donc dans le prolongement, c'est l'humilité et l'abandon à Dieu. Il nous faut donc, lorsque le Seigneur nous exauce, et nous savons qu'il nous exauce, c'est pour cela que nous remercions avant même d'avoir été exaucés, puisque nous savons qu'il nous a exaucés, il nous faut de l'humilité, comme cet officier, et l'abandon à Dieu. Lorsque notre Seigneur nous dit « Je vous ai exaucé » dans notre cœur, eh bien, il nous faut croire à cette parole avant même d'en avoir vu les résultats. Alors vous allez dire, mais comment entendre le Seigneur dire « Je vous ai exaucé » ? Évidemment, ce n'est pas donné à tout le monde de l'entendre par une parole spéciale au fond de son cœur. Il ne faut surtout jamais la demander. Mais, d'une certaine manière, dans la mesure où nous demandons en fixant notre regard vers Dieu, en ayant une disposition constante à la gratitude, à une disposition constante à la pénitence, une disposition constante de recours à la miséricorde de Dieu et une disposition d'humble humilité envers Dieu, nous savons que Dieu ne peut pas ne pas nous exaucer. Oui, nous savons quand Dieu ne va pas nous exaucer, c'est-à-dire quand nous sommes dans des mauvaises dispositions, mais si nous sommes dans les bonnes dispositions, Dieu est bon et Dieu est juste, il tient ses promesses. Donc, nous devons savoir que Dieu nous exauce. Maintenant, il faut attendre le lendemain, comme cet officier, pour voir l'exaucement. Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. Ce n'est que le lendemain, lui qui a cru le jour même, à l'heure même, ce n'est que le lendemain qu'il a reçu cette bonne nouvelle. Vous voyez, mes très chers frères, nous qui sommes assis auprès des cours d'eau de Babylone et qui pleurons en nous souvenant de notre demeure céleste, nous devons demander de façon à être exaucé, de façon à ne pas perdre notre temps dans cette vallée d'exil ici-bas, mais de façon à ce que nous puissions, eh bien, chaque jour, un peu plus avec l'aide de Dieu, nous rapprocher de Dieu par la pratique fidèle de ses commandements, lui demandant la paix, le pardon et la paix, et jouissant du pardon et de la paix, afin de pouvoir être purifié de nos péchés et le servir en toute sécurité avec son aide. C'est cela, être sage, mes très chers frères, de la sagesse de l'Évangile, que Dieu nous donne d'être sage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci.